On va commencer l'épître aux Colossiens. On ne va pas voir cela comme une étude biblique au sens où on va faire toute une phase d'introduction dans le contexte. On verra le contexte à fur et à mesure des versets que l'on va croiser. Et puis ce soir, ça, on va juste se préoccuper du début du premier verset. Épître aux Colossiens. Et on va réfléchir, méditer sur un thème qui nous saute aux yeux là. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et nous verrons la semaine prochaine la suite. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Je voudrais que nous puissions méditer ce soir sur la notion de la volonté de Dieu. C'est sûr qu'on n'est pas tous appelés à être apôtres. Mais nous sommes tous appelés à rechercher la volonté de Dieu. Et en fait, c'est même indispensable. Un sujet qui me trotte dans l'esprit depuis plusieurs semaines, c'est celle de rechercher Dieu, rechercher le royaume de Dieu. Et là, la notion de la volonté de Dieu, alors bien sûr, je sors un petit peu du contexte, parce que qu'est-ce qu'il est en train d'évoquer Paul là dans son introduction? Il est en train de dire, je suis apôtre, mais ce n'est pas moi qui me suis revendiqué le titre d'apôtre. Je ne suis pas apôtre parce que je pense que je suis meilleur que les autres. Je ne me dis pas apôtre parce que je suis peut-être mieux placé que les autres. Non, je suis apôtre non pas de ma propre volonté, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé à cette fonction. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous ne sommes pas appelés à être forcément apôtres, nous sommes forcément appelés à une volonté particulière. Croyez-vous que Dieu a un plan pour vous? Croyez-vous que Dieu a une volonté dans votre vie? Oui, on le sait. Comme chaque parent a un désir, un souhait, une volonté à l'égard de son enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, Dieu aussi, comme un père, a une volonté à notre égard. Et on sait que Dieu a de bonnes volontés, de bons désirs. Recherchez la volonté de Dieu. C'est vrai que bien souvent, même en tant que chrétien, on se compare un peu par rapport aux autres, par rapport à ce que telle personne a fait. Ah, lui, il a le même âge que moi et il a déjà fait ça et ça. Moi, je suis dans telle situation et tel autre travaille comme ci, comme ça. Il a les mêmes diplômes et pourtant il fait ceci. On se compare vestimentairement, physiquement, financièrement. On se compare aux dons, aux qualités. On se compare par rapport au mode de vie des autres. Récemment encore, j'entendais quelqu'un qui disait ah, avec tous ceux qui partent et moi je pars pas, ça me fait un cafard. J'ai dit, mais si les autres n'étaient pas partis en vacances, est-ce que toi le cafard? Ben, je sais pas en fait. Et on se compare toujours un peu. C'est assez naturel. Mais en tant que chrétien, je crois qu'on a une autre perspective. Non pas de se comparer, de se juger, de s'évaluer par rapport aux autres, mais de se juger, de s'évaluer par rapport à la volonté de Dieu. Un peu partout, on le voit. C'est bien même les premières paroles de la manière dont nous devons apprendre à prier. Quand les disciples sont allés voir Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, ok, pas de problème, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a dans la notion de l'aspiration, de la prière, cette aspiration à ce que la volonté de Dieu se fasse. Et on est tous pareils, quand on prie, on est très individualiste quand même, n'est-ce pas? On pense d'abord à... On se planche dans la prière, on pense à nous, on se place nous vis-à-vis de Dieu, nous par rapport à notre travail, nous par rapport à ce que l'on comprend. Et c'est normal. Donc quand on prie que ta volonté soit faite, on ne peut pas s'exclure de qu'est-ce que moi je peux faire dans ta volonté. Jésus lui-même. Non pas ma volonté, mais ta volonté lorsqu'il était au jardin de Gethsémané. Ce sont des prières que l'on connaît parfaitement. Quelque chose qui est interpellant aussi, Paul, oh, il était juif. Mais on voit qu'il a une mentalité à chercher la volonté de Dieu, bien sûr. Il avait une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Mais en tant que juif, que bon juif, il se voyait comme un devoir vis-à-vis de Dieu de pourchasser ceux qui croyaient en des fausses doctrines. En l'occurrence, il pourchassait les chrétiens en tant que juif, en tant que pharisien, en tant que zélé. Mais le jour où il a la révélation de Jésus, qu'il ne connaît pas encore, qui es-tu, Seigneur ? C'est sa première question. Sa première préoccupation après sera de dire, que veux-tu que je fasse ? On peut lui reprocher plein de choses avant sa conversion, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas chercher à faire la volonté de Dieu. Il la comprenait mal, soit. Mais est-ce que Dieu n'aurait pas choisi Paul, parce que justement dans son cœur, il avait ce désir de faire la volonté. La première chose qui lui vient à l'esprit quand il a cette révélation qui le bouleverse, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Quelle est ta volonté ? Et je crois que le cœur du croyant, du disciple, se caractérise certainement par cette recherche de la volonté de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu ? Encore faut-il l'accepter. Encore faut-il l'accepter, parce qu'il y a des fois, on sait ce que Dieu veut, et nous, on a envie d'autre chose, n'est-ce pas ? C'est normal, hein ? Ce conflit d'intérêts, Paul l'a décrit, en Galates, chapitre 5. Il ne parle pas de volonté, mais il parle de conflit entre la chair et l'esprit. Mais c'est ça, hein ? Parce qu'on sait bien que la volonté de Dieu se déposera dans notre esprit par son Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique sa volonté. C'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente, qui nous titille, qui nous stimule, qui nous reprend dans notre conscience. Ne faisons jamais taire la voix de la conscience. Si on a donné notre cœur au Seigneur, notre conscience est régénérée également par le Saint-Esprit. Et Dieu nous parle par notre conscience, n'est-ce pas ? Pas besoin d'écriteaux magiques dans le ciel, ni d'une voix qui résonne dans la maison. Ce murmure doux et léger de notre conscience. Alors on sait ce qu'il y a à faire. Et puis on a la chair. Ah, c'est pas comme la même voix, ça fait pas pareil. Mais on sent comme une force intérieure qui regimbe contre cette volonté que l'on sait être divine, qui ne s'impose jamais à nous, parce que Dieu est un gentleman. Jamais Dieu ne s'imposera dans notre vie. Il veut toujours nous associer à sa volonté. Parce qu'il veut que nous soyons ouvriers avec lui, et pas des pions, pas des marionnettes. Alors il y a, et je trouve la description que Paul fait parfaite, c'est en Galates 5, 16 pour ceux qui prennent des notes. « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Et l'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et la conclusion est étonnante. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et on retrouve la notion de la volonté. Paul nous dit bien qu'il y a une opposition, une dualité. Mais celle-ci, elle est bonne pour nous apprendre à ne point vivre selon notre volonté, mais selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il dira qu'il faut marcher selon l'Esprit. Parce que nous le savons, ce n'est qu'avec l'assistance du Saint-Esprit que nous arriverons et que nous accepterons à faire la volonté de Dieu. Si on s'appuie sur notre chair, on n'a pas envie. On a envie de quelque chose de plus confortable. On a envie de quelque chose de moins déstabilisant. On aime faire les choses dans lesquelles on se sent à l'aise, pour ne pas dire on maîtrise. Et le Seigneur nous met souvent dans des situations où indélicates, inconfortables, où on a l'impression qu'on est impuissant même. Mais n'est-ce pas de ces situations-là au travers de cette situation que Dieu se glorifie. C'est dans la faiblesse qu'il se glorifie. C'est quand on est sans force qu'effectivement on crie au Seigneur et qu'on lui laisse toute la place et toute la gloire. La volonté de Dieu, on peut la connaître, mais encore faut-il l'accepter. Et en fait, cette part d'acceptation, c'est cette acceptation de ce conflit intérieur. Plusieurs chrétiens, avouons-le, ont quitté le chemin de la volonté de Dieu parce qu'ils ne supportaient plus ce conflit, ce combat intérieur. Et c'est vrai, quand les choses s'opposent au-dedans de nous, ce n'est pas toujours évident. On aurait envie de souffler, n'est-ce pas ? Et « Oh Seigneur, laisse-moi un peu. » De temps en temps, d'ailleurs, on ne lui dit pas. On le fait sans lui demander l'autorisation. Mais, et c'est le troisième point, obéir à la volonté de Dieu est quand même ce qui est le plus satisfaisant dans le cœur du chrétien. On a beau dire « Non Seigneur, je préfère faire autre chose. Seigneur, j'ai envie de souffler. Oh Seigneur, on peut voir ça plus tard, pas maintenant. Oh Seigneur, d'autres le font beaucoup mieux que moi. » Et on a toute notre litanie d'excuses et de raisons. N'empêche qu'après, on n'a pas la même satisfaction que quand on dit « Oui Seigneur, ok. » On y va maladroitement, bedouinement. Pardonnez-moi, c'est mon prénom, mais c'est un mot français qui veut dire qu'on n'est pas très à l'aise. Mais une fois qu'on a eu la satisfaction de faire ce que Dieu attendait, quelle édification personnelle, quelle force intérieure, quelle joie, non pas cette joie terrestre là, qu'a pu nous apporter peut-être les fois où on n'a pas fait la volonté de Dieu, où on s'est tranquillement installé dans notre désir plus que dans la volonté de Dieu. Mais quand on fait la volonté de Dieu, il y a un épanouissement, il y a une maturité, il y a une joie, il y a un élan. Et tout coule. Quand on fait la volonté de Dieu, on sent que Dieu est avec nous, n'est-ce pas ? Quand on choisit le choix de la chair, les choses sont toujours plus compliquées, vous ne trouvez pas ? L'esprit est plus alourdi, la chair est plus lourde, les relations sont moins nettes. Oui, il y a un trésor pour ceux qui vivent avec la recherche de faire la volonté de Dieu. J'ai pu le remarquer en tant que chrétien, mais je le remarque davantage en tant que pasteur. Il y a une différence notable entre un chrétien qui obéit à la volonté de Dieu avec d'autres chrétiens qui ont renoncé à l'obéissance à la volonté de Dieu. La différence, elle est notable. Car ceux qui font la volonté de Dieu se renouvellent spirituellement. Ceux qui obéissent à la volonté de Dieu ont une clairvoyance spirituelle, ils ont une affection pour la parole de Dieu. Bien sûr, il leur arrive aussi des tracas, mais ils sont comme renouvelés, ils se renouvellent. Ils ont de l'engagement, ils ont du désir, ils ont de l'entrain. On sent qu'il y a quelque chose qui brûle dans leur cœur. Ceux qui ne vivent plus dans la recherche de faire la volonté de Dieu s'attiédissent. Inévitablement. Oh, ils ne pêchent pas grossièrement. On ne peut pas dire qu'ils font mal. Mais on sent que leur vie spirituelle est comme sclérosée. Ils ne progressent plus. Certains sont comme dans des blocages. Il n'y a plus de pétillement. Ils ont une vie gentille, pardonnez-moi. Ce n'est pas insultant, mais on sent qu'il manque quelque chose. Je dirais, pour ma part, quelque chose d'essentiel. Le feu, la hardiesse. Et oui, parce que quand on y réfléchit, c'est presque logique. Parce que quand on ne fait plus la volonté de Dieu, Dieu est celui qui peut se dire « Mais tu n'as plus besoin de moi. » Car tu ne veux faire que les choses qui te satisfont, les choses où tu te sens à l'aise, les choses où tu es confortablement installé dans une sorte de rodage qui roule tout seul, quoi, comme une voiture qui sur une pente et elle n'a pas besoin de moteur quelque part. Le poids, son propre poids l'a fait avancer. Il y a comme ça des exemples dans la Bible. J'en ai retenu un qui est intéressant. C'est, vous savez, c'est après la conquête de Jéricho. quête de Jéricho. Ils sont là avec Josué, ils sont en train de marcher vers le pays promis. Ils sont face à cette forteresse. Dieu parle à Josué, il dit allez, fais comme ci, fais comme ça. Il s'exécute et là il voit le miracle. Sans un coup d'épée, tout s'écroule. C'est... Victoire glorieuse. Moi, bon, il y en a un qui pêche, il vole au lieu de tout consacrer au Seigneur Archan, qui vole des richesses. Ça crée un interdit. Et puis après, à la ville d'après, Haï, qui est plus petite, on voit déjà Josué qui évalue la ville. Oh, vu comment on a vaincu Jéricho, Haï, on va en faire une bouchée. N'envoyons pas toute l'armée, juste quelques-uns. Allez à la guerre! Et là, on sent l'évaluation humaine. Oh là là, oh là, la catastrophe. Ils sont vaincus par cette petite ville. Alors là, ils cherchent la face de Dieu. Ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que quand même, Jésus a passé toute la journée à chercher la face de Dieu de ce jour-là. Et Dieu finit par lui répondre, il y a du nettoyage à faire au milieu de vous. Là. Ils font du nettoyage, ils retournent, et là ils conquis Haï. Puis comme si la leçon ne suffisait pas, on arrive au chapitre 9. On était au chapitre 6, 7, 8. Et là, ils continuent leur chemin. Et là, Dieu va leur apprendre une autre leçon. Non pas seulement celle de prier quand il y a un problème, de chercher la volonté de Dieu quand il y a une situation douloureuse. Non, ils vont apprendre une autre leçon. Parce que alors qu'ils sont en route, voilà qu'ils rencontrent des pauvres gens. Oh, avec des vêtements tout usés, des gourdes vides, du pain tout sec. Nous sommes des Gabaonites. Et nous avons fait un long chemin et nous sommes épuisés, s'il vous plaît, protégez-nous. Alors voilà ce qui est écrit. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Ils ne se consultèrent point, ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Et 3 jours après, ils se sont aperçus qu'ils ont fait un pacte avec un peuple qui les avait trompés. Mais l'histoire, c'est que Josué, une fois de plus, avec les autres chefs, ont évalué la chose de manière très, très charnelle, sur leur considération propre. Et le texte précise bien, ils ne consultèrent pas l'Éternel. Pardonnez-moi de replacer dans le contexte, ils ne cherchèrent pas la volonté de Dieu. Ils ne cherchaient pas à savoir si Dieu voulait que le peuple d'Israël conclue un pacte avec eux, oui ou non. Ils ne sont pas souciés de rechercher la volonté de Dieu dans cette situation, dans cette circonstance. Et ce sera par la suite une occasion de chute avec Saül et par la suite avec David. Mais il est important en tant qu'enfant de Dieu de connaître la volonté de Dieu, de l'accepter et d'y obéir. Quand on n'accepte pas la volonté de Dieu, quand on désobéit à la volonté de Dieu, il y a toujours des conséquences malheureuses, toujours. Et si elles ne sont pas mortelles, si elles n'ont pas forcément des conséquences toujours douloureuses, en tout cas, elles sont un poids spirituel pour celui qui n'accepte pas cette recherche et cet épanouissement spirituel. Comment connaître la volonté de Dieu? Que diriez-vous? Dieu nous a donné 2 éléments essentiels. La parole de Dieu. Elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Psaume 119, verset 35, me semble-t-il. 105. La parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous conseiller, pour nous orienter. Quiconque ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu sera complètement déboussolé. Oui, il pourra peut-être prendre le temps de prier, mais la prière et la parole sont indissociables. Indissociables. Combien de gens même, et on verra ça dans le dernier point qu'on verra après, combien de gens même se sont complètement noyés parce qu'ils priaient Oh oui, il priait, mais sans connaître la parole de Dieu, en fait, ils prenaient un petit peu comme étant la volonté de Dieu ce qui leur venait à leur propre esprit, sans qu'il y ait le tuteur, le cadre de la parole de Dieu. Et ils se sont embarqués ainsi dans des histoires que le diable cultivait et entretenait dans leur esprit pour leur faire miroiter des fausses illusions spirituelles. La parole de Dieu, c'est le premier des critères et le sera toujours. Le deuxième élément que Dieu nous a donné, c'est la prière. La prière. Qu'il est bon. Qu'il est bon ces moments où on ne connaît pas la volonté de Dieu. Qu'on cherche la face de Dieu et que Dieu dépose des choses sur notre cœur, n'est-ce pas? Je crois que Dieu nous permet en temps d'être dans l'obscurité comme ça, hein, afin qu'on puisse connaître ces moments où il y a quelque chose qui se dépose là. Et dire, oh Seigneur, merci, n'est-ce pas? On est content. On a l'impression de découvrir un grand trésor, une orientation, une pépite que le Seigneur nous a donnée. Vas-y, mais qu'est-ce que je suis pour que tu me parles? La parole de Dieu et la prière. Bien sûr, quand je parle de la prière, je parle ce temps de prière où on est peut-être plus dans l'écoute que dans l'expression. Ce temps où on se laisse plus influencer plutôt qu'on est en train d'expliquer à Dieu pourquoi on a besoin de... Oui, Dieu sait. Tais-toi et laisse-toi influencer. Et des fois, le Seigneur nous placera sa volonté au travers de sentiments qu'il déposera sur notre cœur. Quels sont, et ce sera le dernier point, quels sont les signes de la volonté de Dieu? Je n'ai retenu 3. Le premier, je dirais que un des signes de la volonté de Dieu, c'est que cela soit conforme à la parole de Dieu. Ça peut paraître un peu stupide de dire cela, mais c'est une évidence première. Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Je peux connaître, si je suis devant un choix, la volonté de Dieu. Un des signes que je suis dans la volonté de Dieu, c'est que ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai envie de faire, l'orientation que je choisis est conforme aux Écritures. Combien de fois ai-je pu entendre? J'aimerais prendre un autre exemple, et c'est l'exemple le plus fréquent. Des jeunes filles qui vont dire « Ah oui, non, je sais que le Seigneur m'a appelé à prendre ce jeune homme alors qu'il était complètement inconverti. » On est dans des situations de non-conformité à la parole de Dieu. Alors quand il y a la lumière, l'amour, les sentiments qui sont là, les paillettes, tout paraît bien. Et les deux autres éléments que l'on va voir paraît coïncider. Oui, mais comme c'est toujours la parole de Dieu qui a raison, les années prouvent que les transpirations et les larmes et les prières ne sont pas suffisantes pour revenir en arrière. Combien de situations où le diable arrive à déstabiliser des gens à long terme en les faisant ignorer la volonté de Dieu, justement, tout simplement, au travers de la parole de Dieu. C'est un exemple, et il y en a tant d'autres, mais c'est le premier critère. Un des signes, le premier signe que l'on est dans la volonté de Dieu, c'est que c'est conforme à ce que Dieu a déjà dit. Le deuxième signe qui conforte dans la volonté de Dieu, qui accompagne le choix que nous pourrions avoir à faire, c'est celui de la paix que Dieu dépose dans un cœur. Alors là, il faut être honnête. Car de temps en temps, on est tellement emporté par l'enthousiasme d'un choix, d'une idée qui nous porte, qui nous satisfait, que là, ah oui, ça va! C'est là qu'il faut faire la différence. Et là encore, on en revient à une maturité spirituelle entre l'exaltation, je veux dire, émotionnelle, qui peut être bonne et qui peut même être très stimulante, et la paix de Dieu. Et on en revient à cette vie de prière, à cette vie d'intimité, à cette vie de relation que l'on a avec Dieu. Et ceux qui savent connaître et discerner cette différence qu'il y a entre la paix de Dieu, cette relation intime, cette relation spirituelle que l'on a avec Dieu, et ceux qui se laissent porter à leurs sentiments, ceux qui savent faire cette différence savent de quoi je suis en train de parler. Mais la paix de Dieu, c'est très important dans la vie du chrétien, très important. Celui qui est sensible et celui qui sait s'entretenir. D'ailleurs, en Colossiens, on verra ça quand on sera au chapitre 3, verset 15. Il nous parle que la paix de Dieu doit régner dans notre cœur. La paix de Dieu doit régner. C'est quelque chose que l'on doit entretenir. Et quelque part, c'est lié à la notion de la volonté de Dieu. Parce que comme on fait toujours la volonté de Dieu, on sera toujours dans cette paix spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des combats spirituels, on se comprend. Mais même le combat spirituel ne retire pas la paix spirituelle, la paix spirituelle, la paix du Père. La paix est un signe de la volonté de Dieu. Et de temps en temps, justement, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, cette paix, on la perd. On commence à être irritable, susceptible. Alors on essaie de la combler par autre chose. Et c'est là que le chemin de la prière est compliqué. Parce que l'on prie, et puis c'est un combat. Et oui, c'est un combat. Parce que la chair a pris le dessus, et on veut étouffer la volonté de Dieu. Alors il y a un conflit qui se met là. Et comme il est dur ce conflit, et que la seule manière de s'en sortir, c'est la repentance dans ces moments-là. Alors on se lève, et on part, et on se change l'esprit. Et on préfère faire autre chose que de revenir s'humilier et dire pardon au Seigneur. Pardon. Parce que je suis en train de m'entêter dans ma mauvaise volonté. Je suis en train de m'entêter dans ce que je voudrais que toi tu sois dans ma propre volonté. Alors que je sais perdument que je ne suis pas dans ta volonté. Pour revenir à cette volonté, il faut se repentir. Il n'y a pas deux, trois chemins. Il n'y a que celui-ci, celui de la repentance, celui de l'humiliation. Celui que David pouvait dire, « Oh Dieu, rends-moi un esprit de bonne volonté. » La volonté de Dieu, par les Écritures, la paix de Dieu, qui est un signe profond. Et je dirais que le troisième signe qui peut peut-être être comme un complément, parce que si on était vraiment honnête, sincère, et si on se connaissait si bien, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas très bien, Chantal l'a très bien dit dans sa parole, Dieu nous connaît tellement mieux, et nous-mêmes nous sommes tellement, de temps en temps, trompés par nos propres sentiments. On a tous fait cette expérience d'être enthousiasmé par une circonstance et puis on s'est aperçu que c'était pas du tout le Seigneur qui était derrière ces circonstances-là, mais on était tellement encouragé, stimulé, émotionnellement parlant, que on pensait que c'était bon, quoi. Alors il en faut un troisième signe. Et ce troisième signe, je dirais que c'est tout simplement les circonstances. Si les circonstances sont favorables, si les circonstances coulent d'elles-mêmes. Parce que il se peut que on fasse un choix qui est conforme aux Écritures, que ce choix nous réjouisse tellement qu'on est émotionnellement très heureux, très joyeux. Alors on se dit, Seigneur, c'est ça, c'est bon. Mais là, on va s'apercevoir, si ce n'est pas la volonté de Dieu, que tout commence à être compliqué. Les choses commencent à déraper. Les relations sont gâtées. Ce que l'on pensait fonctionner ne marche pas. Là où il ne devait pas y avoir soucis, il y a des soucis. Là où on avait projeté d'organiser les choses ne s'organisent pas et ne se passent pas comme on les avait prévus. Et là, on commence à avoir des luttes, comme si... Oui, comme si Dieu était derrière, bien sûr. D'ailleurs, rappelez-vous, quand on lit tout l'Ancien Testament, c'est ainsi que Dieu interpellait son peuple. C'est ainsi que Dieu interpellait les rois. Quand les rois commençaient à partir dans l'idolâtrie, ils disaient, ok, si c'est comme ça, moi je vais vous envoyer la guerre chez vous. Si c'est comme ça, je vais vous envoyer des épidémies. Si c'est comme ça, vous allez perdre vos richesses. Vous allez connaître la sécheresse. Dieu les interpellait, le peuple et les rois, au travers des circonstances qui devenaient mauvaises. Relisez à la maison ce fameux chapitre sur les bénédictions et les malédictions. Et en fait, les malédictions ne sont que des oppositions. Vous semerez beaucoup et vous récolterez rien. Vous chercherez la paix et ce sera la guerre. Il y aura des oppositions dans vos propres familles, etc. Les circonstances ne se passent pas comme on veut. Alors quand on cumule tout, effectivement, ça s'appelle de l'endurcissement. Il faut espérer qu'en tant que croyant, nous ne soyons pas dans cette logique. Mais de temps en temps, même de bonne foi, en cherchant la volonté de Dieu, on peut avoir un doute comme ça, se dire « mais j'en suis ». Si le choix que vous faites si devant un doute, vous êtes en train de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Prenez ce chemin. Même si à vos yeux, il ne vous paraît pas le bon, mais faites le choix de ce qui est conforme aux Écritures. Faites le choix de ce qui, dans votre cœur, se déposera comme un fardeau doux et léger, comme une paix. Comme... En voyant Mireille, ça me fait penser à cette histoire où tout le monde l'encourageait à avorter. La pression était forte, le cœur était souffrant. Et quand cette paix de Dieu est venue dans son cœur, cela a été une orientation. Cette paix est importante. Et soyons aussi sensibles. Pas la peine de lutter quand tout va dans le sens contraire. Que nous soyons intelligents, réfléchis, matures, et dire, oh stop. Peut-être que c'est peut-être parce que toi tu attends, Seigneur Jésus. Mais allons, de toute notre force, de toute notre âme, et avec enthousiasme et avec conviction. Quand les choses se passent avec paix, avec justice, que le Seigneur marche même devant nous, prépare les temps, les circonstances, alors fonçons. Fonçons avec foi, parce qu'une fois qu'on a accepté d'obéir à la volonté de Dieu, alors on rentre dans un autre combat. Mais quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, quand on sait que l'on fait ce que Dieu veut, quand on sait que l'on est là où Dieu nous veut, quand on sait qu'on a pris une position, celle que Dieu voulait que l'on prenne, alors nous marchons avec lui, nous travaillons avec lui, nous avançons avec lui. Et là, nous n'avons plus rien à craindre. Amen.